Émission spéciale Galtier Valuation, crowdfunding immobilier, les raisons du succès sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette émission spéciale proposée par Galtier Evaluation. On s'intéresse aujourd'hui au crowdfunding immobilier, les raisons du succès, sous l'angle bien sûr de l'évaluation. Vous le savez peut-être, en tout cas c'est quelque chose qui cartonne en ce moment en 2021. La collecte sur cette classe d'actifs a atteint 2 milliards d'euros, c'est 10 fois plus qu'en 2015. C'est dire si le crowdfunding immobilier a le vent en poupe, littéralement traduit par financement par la foule ou financement participatif en bon français. La formule séduit de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. L'immobilier représente 60% des volumes financés et on va le voir, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, est-ce qu'on est toujours sûr de faire le bon investissement au bon prix ? C'est là justement que l'expertise apparaît. Quels sont les points de vigilance ? À quoi sert d'ailleurs l'expertise ? Comment est-elle réalisée ? Quelles sont les perspectives sur ce marché du crowdfunding immobilier, notamment dans un contexte de remontée des taux ? Eh bien, c'est autant de questions que nous allons posé à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Baya de Riche. Bonjour Baya.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes responsable des études immobilières chez Galtier Evaluation. Bienvenue à vous. Et Patrick Borghetti, directeur du développement de la clientèle institutionnelle chez Galtier Evaluation. Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice.
Baya, on démarre avec vous. On pose un peu les termes du sujet. C'est vrai que ce crowdfunding immobilier, alors crowdfunding, on l'a vu apparaître, hein, c'est vrai, il y a quelques années, il y avait des dizaines de plateformes qui se sont montées. Et puis, il y a une classe active qui a émergé et qui a le vent en poupe aujourd'hui, on le disait. C'est le crowdfunding immobilier. Quelles sont, dans les grandes lignes, les raisons de ce succès fulgurant ?
Alors, les très grandes lignes, en fait, aujourd'hui, on parle du crowdfunding, bon, qui a un nom un petit peu bizarre à prononcer. En réalité, existe depuis très longtemps. Et avant, il avait les vertus de regrouper un petit peu des donneurs pour tout ce qui était mécénat, pour des dons. Par exemple, si je voulais soutenir les travaux de Mozart ou participer à la création de la Statut de la Liberté. Donc il y avait le premier ces premières actions qui étaient autour de ces dons participatifs et petit à petit
tout
ça...
un chacun pouvait participer.
Vous faites un don.
Voilà,
je donne de l'argent. Donc, ça s'appelait de l'investissement participatif avec une dimension plutôt culturelle ou artistique. Et au fil de l'eau, ça s'est transformé. Et ensuite, il y a eu des collectes de fonds, on va dire, ou de l'appel à la foule, comme on le citait à l'époque, pour avoir des investissements participatifs. Petit à petit, ce marché s'est structuré. Si on reprend les grandes dates, c'est 2014 où il y a eu des décrets et des ordonnances qui ont bien encadré la profession, puisque là, il fallait protéger l'investisseur par rapport à ces différents produits, à ces différents placements.
Oui.
Donc 2014, les grandes dates. Ensuite, en 2022, il y a eu, je crois que c'est le 1er février 2022, si je ne me trompe pas, où les collectivités locales pouvaient également faire appel à collecte sous ce volet de crowdfunding.
Donc il y a un an, presque.
Ouais, voilà, à peu près de ce que j'ai regardé, ce qui peut expliquer l'essor en fait des collectes qui sont dans ce cadre financier. Après, pourquoi ça séduit ? Donc faut pas oublier qu'il y a eu la crise des subprimes entre-temps. Je veux faire un placement. Où va mon argent ? Comment est le suivi ? Les taux de rentabilité, enfin les promesses de taux de rentabilité, est-ce qu'elles sont là ou pas ?
Oui.
Donc aujourd'hui, l'investisseur, on va prendre, il y a deux grandes catégories d'investisseurs, dit je veux placer un volume d'argent. Alors la somme peut aller de 1000 euros à... Il n'y a pas de limite dans le placement. Et je vais me positionner sur un placement qui est bien défini. Ça, c'est important.
Oui.
On se met sur une opération immobilière et la durée du placement avoisine les 2 ans. Voire au-delà pour certains investissements, avec un taux de rentabilité qui peut aller, on a une fourchette large, hein, de 8 à 12 %. Bon, qui dit taux de rentabilité?
Qui surprend, hein, parce que 8 à 12%, on a l'habitude de dire en finance plus de 10%, surtout quand les taux étaient quand même près du niveau de la mer, hein, c'est-à-dire 0%. On se dit, ça peut être aussi une arnaque. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit, mais c'est pas possible d'avoir des rendements comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué à se dire, comment on fait pour du placement sans risque? Il faut signaler, il y a que c'est pas du tout du placement sans risque.
Y a une règle, hein, si vous voulez de la rentabilité, vous prenez des risques. Le non-risque n'existe pas, il faut le payer. Donc forcément, il y a un risque derrière. Donc il faut être vigilant sur ce qui est annoncé en termes d'investissement. Est-ce que c'est crédible ou pas? Faut vérifier.
Donc 8 à 12%, on peut imaginer que c'est quelque chose d'assez risqué. Et pourtant, comme l'investissement, en tout cas dans l'immobilier, est assez court, hein, c'est des fenêtres de 12 mois, 24 mois, 36 mois finalement, relativement court par rapport à d'autres placements, et qu'on a un bon taux de recouvrement, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, finalement c'est une classe d'actifs qui a séduit. On résume, hein, donc entrer avec des sommes assez petites, que tout le monde finalement peut se permettre, enfin tout un investisseur, 2, des rendements attractifs, et 3, quelque chose qui sécurise, c'est un placement sur l'économie réelle, vous l'avez dit, par rapport peut-être à la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire c'est de la pierre, donc ça rassure les Français.
Et ne pas oublier, on parle de taux de rendement brut. Donc ensuite, faut ramener
appliquer la flat tax.
Voilà, la flat tax. Et...
Il ne faut pas oublier évidemment le coup de rabot fiscal, bien évidemment.
Toujours regarder le net-net qui diffère.
Alors Patrick Borghetti est notre expert, il a envie de parler aussi, nous expliquer, parce que ce qui va être très important évidemment, c'est de bien évaluer le prix du bien. Évidemment, il y aura une rentabilité, mais pour le prêteur, évidemment, il faut une expertise. Patrick, on a l'impression que tous les prix sont connus, pourtant on fait quand même appel à vous, à Galtier Évaluation, pour se dire, que vaut mon bien? Comment l'expliquer?
Alors, effectivement, comme le disait Baya, le financement participatif, ça permet à tout un chacun de rentrer dans le sérail du banquier. C'est-à-dire, vous êtes le banquier d'une opération immobilière qui va être initiée par tel ou tel opérateur, le plus souvent des promoteurs ou des marchands de biens. Ce sérail, vous pouvez y entrer, mais il faut être averti. Pourquoi ? Si vous examinez les choses en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, tout est formidable. C'est-à-dire que quand vous regardez la situation que tout un chacun a pu constater en 2021, voire à l'orée de 2022,
oui.
Je dirais que les opérations, qu'elles soient de financement bancaire court terme, classique, ou de crowdfunding, constituer en quelque sorte une martingale gagnante à chaque coup.
Tout était gagnant 2020, 2021, 2022, jusqu'à, on va dire, il y a eu un avant et un après, la remontée des taux.
Jusqu'au décrochage de septembre 2022, que tout un chacun maintenant commence à intégrer. Ce qui ne veut pas dire que, s'agissant du logement par exemple, ou même de compartiments comme les commerces et les bureaux, toute activité immobilière est interrompue, point du tout. Cela étant, il faut examiner ces opérations avec vigilance et, bien évidemment, avec encore plus de vigilance que ce n'était le cas auparavant. En fait, l'expertise immobilière, elle s'intègre un petit peu en aval du travail que va faire le crowdfunder, donc le prêteur. Le prêteur, il va examiner un certain nombre de paramètres sont de nature à sécuriser l'opération.
Une question importante, Patrick, vous nous avez dit on se substitue au banquier. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant d'avoir ces rendements. On se dit, mais quel intérêt pour quelqu'un qui démarre une opération d'avoir de payer finalement déjà entre 8 et 10, 12% alors qu'il y a encore très peu de temps, l'argent était là, il était abondant, il n'était pas gratuit, mais on pouvait avoir des taux extrêmement bas. Expliquez-nous pourquoi finalement dans une opération on va chercher cette ressource. Vous nous disiez on va chercher un nouveau banquier alors qu'on en a déjà.
Alors pourquoi ? Parce que tout simplement le système bancaire est devenu extrêmement rigide. C'est-à-dire que les règles prudentielles Bâle 3 avec des ratios de levier, les ratios de liquidité, on ne va pas rentrer peut-être dans le détail de la finance, sont devenues sensiblement plus exigeantes qu'elles ne l'étaient auparavant. L'abondance de liquidité, là il y a un long débat sur l'abondance de liquidité. Pour ma part, je pense que le robinet est en train de se tarir et c'est sensible au niveau des banques centrales. Hein. Tout est fait en tout cas en ce sens. D'une manière générale, le crowdfunding va jouer ce rôle que de permettre à des petits promoteurs, des petits marchands de biens. Pourquoi ? Parce qu'on se situe sur un créneau de financement inférieur à 5 millions d'euros.
Oui.
De tout simplement mettre en place son opération.
Très bien. À quel moment il fait appel à vous ? C'est avant l'opération ? C'est quand l'opération a démarré ? À quel moment on fait cette évaluation du bien ?
Alors tout ça se situe en amont. Même si un premier travail d'analyse a été fait par le crowdfunder, alors on peut citer quelques plateformes, éventuellement, Clubfunding, Look & Fin, Risers, par exemple, qui sont, je dirais, des accompagnants classiques en matière de crowdfunding. Ils font une analyse, mais à l'image de ce que fait le banquier. C'est-à-dire, on va examiner le profil du client, donc du promoteur ou du marchand de biens, son expérience,
oui.
Le nombre d'opérations que celui-ci a dénouées, ces opérations se sont-elles conclues par une marge et à quel niveau de marge ? Après, sachant que le crowdfunder donne accès à, je dirais, un certain nombre de garanties, puisque tout ça est régi par l'AMF et la CPR, l'expertise immobilière va s'inscrire dans ce process de garantie. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'examiner la faisabilité de l'opération, non pas, ou en tout cas pas seulement, à l'aune de l'expérience qu'on peut avoir sur les deux dernières années, qui, comme je le disais tout à l'heure, peut apparaître extrêmement flatteur, mais justement à l'examen des perspectives de marché.
Et voilà, c'est pas finalement, comme vous le disiez, regarder dans le rétroviseur, c'est regarder aussi ce qui se passe actuellement et peut-être anticiper, par exemple, les remontées de taux, puisque le contexte est effectivement plus compliqué. On se rend compte à ce moment-là que même si, comme disait Patrick Borghetti, c'était presque facultatif, ce métier d'expertise, il devient de nouveau de plus en plus important.
Oui, clairement. En fait, on devrait communiquer un petit peu plus sur le métier d'expertise qui pour certains reste méconnu ou on pense que c'est pas à la portée de chacun de pouvoir avoir le regard de l'expert sur certains marchés. Et là, de voir le sujet du financement qui est le nerf de la guerre, hein, de toute façon. Et de voir, de bien planter le décor sur un contexte économique, sur les mutations très fortes qui sont en train d'être réalisées au niveau des comportements et des usages des mètres carrés. Il y a aussi la conjoncture, hein, les craintes. Là, on est en plein dans les débats sur la retraite, donc quid ? Comment je fais, comment j'anticipe avec une durée de vie qui s'allonge, on a envie d'être en bonne santé, on a envie de maîtriser un petit peu mieux sa trésorerie. Donc c'est de dire quelles sont les possibilités que j'ai à côté de moi. On sait que la pierre a une valeur refuge et rassure. Hein, on est sur quelque chose qu'on peut aller toucher, qu'on peut aller voir. Donc ce sujet de crowdfunding, en fait, cette façon de pouvoir faire des placements est très sécurisante et séduit. C'est-à-dire là, je peux voir où va mon projet, comment il évolue. Je suis sur du court terme. Et d'avoir le regard d'un expert en évaluation immobilière est très importante. Si on prend pour les promoteurs ou les marchands de biens, ça va sécuriser une partie du financement de l'opération. Et le banquier aujourd'hui, qui est un, faut le mettre avec la casquette investisseur,
hein, bien sûr.
il va octroyer de l'argent pour une opération immobilière. Donc il souhaite que celui qui porte ce projet puisse déjà dire bah, « Écoutez, regardez, moi j'ai X% de financement ou X% de pré-commercialisation, donc on vous suit, on vous suit pas ». Et le sujet de l'expertise, c'est toujours « On regarde par rapport à un contexte, par rapport à un risque ». Et là, si on parle sur le sujet des risques qu'on peut un peu anticiper sur 2023, donc on l'a évoqué, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc on voit bien que j'ai envie de dire la porte de solvabilité est en train de se refermer. Et on voit sur des opérations immobilières qui ne peuvent pas aboutir ou sur des chantiers qui ne voient pas le jour. On est quand même sur un taux, j'ai lu les chiffres il n'y a pas longtemps, on est à 40% de chantiers qui ne sont pas lancés, ce qui est quand même assez important. Donc il y a le volet financement qui est très très important. Et toujours, hein, on le voit en interne, c'est étudier le marché, regarder la solvabilité, prenez le ticket de sortie, anticiper les événements, d'avoir différentes hypothèses d'opérations immobilières pour minimiser au maximum le risque.
Bien sûr. Cette expertise, Patrick Borghetti, c'est aussi une façon de marquer un prix, évidemment. C'est ce qu'on vous demande. Par exemple, bah tiens, sur telle zone, on sait qu'on va pouvoir vendre produit fini, je dis n'importe quoi, à 7 500 € le mètre carré. Ça va être votre analyse. Peut-être le promoteur, lui, a déjà des réservations qui sont beaucoup plus élevées.
Alors, effectivement, le rôle de l'expert, c'est d'une part de valider le prix, mais aussi, peut-être aussi, de valider la pertinence de l'opération au travers des, je dirais, du rythme d'écoulement, parce que c'est un paramètre très important dans une opération court terme. Il est évident que sur des opérations qui concernent 10 lots, 20 lots aujourd'hui, même dans des marchés immobiliers actifs, ça commence à devenir un petit peu plus complexe que cela ne l'était par le passé.
On soulève un petit peu le capot, si vous voulez bien, sans révéler bien sûr les secrets de fabrication. On a l'impression, outre votre grande expérience, qu'il faut utiliser un grand nombre de données, de data, là aussi, pour faire ces évaluations. Alors, on l'a dit, hein, évidemment, il y a les prix, on peut imaginer des notaires, des anciennes opérations. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre comme set de data?
Alors, au-delà des data, l'important en la matière, c'est quand même l'analyse du micro-marché de référence. On le constate au travers de... Là, je vais vous livrer un petit secret. Vous vouliez un petit secret, je vous en donnais un. C'est vrai que sur des opérations qui sont situées dans des marchés dont l'activité semble se pérenniser, comme par exemple l'approche périphérie lyonnaise, il n'y a pas de décrochage sensible des réservations. C'est-à-dire que les opérations qu'on est amené à voir dans le cadre de demandes qui sont effectuées par des sociétés de crowdfunding, oui, ce sont souvent des opérations de découpe relativement faciles. Une maison implantée sur un grand terrain, lequel terrain donne vocation à une division en 2, 3, 4 lots, et avec, le cas échéant, un réaménagement des surfaces d'une maison qui, souvent à l'époque, c'est du bâti des années 60-70, qui étaient des maisons de grande superficie en 2 ou 3 lots, permettant donc la réalisation de T3 ou de T4. Et ça, ce sont des opérations dont le turnover est assez rapide, puisque aujourd'hui, alors même un petit, en termes de dénouement, on parle plutôt de 21 mois.
D'accord, c'est aussi, très court.
Là aussi, à prendre avec toutes les réserves dont je vous ai parlé auparavant, quant à la fiabilité du promoteur, son expérience sur un micro-marché.
D'accord, donc ça sera, je dirais, un des points de vigilance spécifiques à cette activité de crowdfunding immobilier, c'est-à-dire vraiment d'aller targeter, d'aller cibler un micro-marché et d'avoir cette expérience vraiment pratiquement sur un quartier, sur une zone, sur une rue.
Le rôle de l'expert, c'est véritablement de, contrôler, anticiper que les prévisions de vente du marchand de biens ou du promoteur ne sont pas excessives.
C'est pour ça qu'au sein du groupe Galtier, on a un maillage territorial qui est quand même très, très fort. Et nos experts sont vraiment des experts locaux. Parce qu'on est sur des micro-marchés, on le sait très bien, hein, d'une rue à l'autre, la tendance va être différente, il faut vraiment avoir le pouls du marché. Donc c'est le positionnement du groupe Galtier à travers la France.
Ouais, ça fait plaisir, à un moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de voir qu'on a encore besoin d'humains et d'experts qui vont sur le terrain et qui connaissent bien.
La donnée, vous l'avez en masse, il faut l'analyser. Ouais. Hein. Faut savoir l'analyser.
Savoir l'analyser, ouais. Oui. Les données, tout le monde les a. Après, c'est comment on les interprète et comment on les sélectionne, bien évidemment. Baya, on termine avec les perspectives, justement, sur ce crowdfunding immobilier. On l'a dit, hein, 2021-2022, des années assez exceptionnelles. On l'a dit également, ça a été multiplié par 10, hein, ces chiffres, en moins de 10 ans. Est-ce qu'on est sur la même dynamique ou est-ce que vous pensez qu'on va vers un ralentissement, notamment avec voilà, des montages plus compliqués aujourd'hui, peut-être avec une montée des taux. Comment vous voyez cette année 2023 ?
Alors c'est compliqué hein, comme question, mais de ce qu'on peut entendre ou lire, on sent qu'il y a un petit ralentissement de la collecte qui peut s'expliquer et se justifier par la hausse des taux, mais aussi par faut trouver le produit, hein, faut trouver un actif immobilier qui va rentrer dans les clous. Donc ça, tout ça peuvent expliquer la méfiance ou l'incertitude sur le marché immobilier. Mais ce qu'on dit est valable pour tout type d'actifs. Hein.
Oui. On a un petit coup de froid, Patrick nous dit tout à l'heure. Voilà, on a senti un avant et après septembre 2022 sur d'autres classes d'actifs, sur l'immobilier en général, les bureaux. On a vu évidemment sur les réservations, les mises en chantier. On a l'impression que c'est vrai que ça, le marché se tend.
Le marché se tend parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est dire, on parlait des promoteurs, on a parlé aussi des mises en chantier qui sont en fort ralentissement. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais lancer mon opération, mais est-ce que avec la hausse des matériaux, avec la difficulté de trouver des entrepreneurs pour mener à bien les chantiers, avec est-ce que je tiens mon calendrier ou pas ? Donc on a quand même des facteurs influents incertains qui vont s'aligner. Donc évidemment, en parallèle, la promesse de taux de rendement sera plus élevée. Plus je prends de risques, plus j'ai un retour sur investissement, un TRI qui peut être important. Donc ça, c'est ce qu'on peut anticiper sur le marché, mais c'est sur le marché immobilier. Hein.
Ça veut dire, Patrick, qu'on aura demain davantage besoin d'experts ou moins besoin d'experts ?
Je pense que le besoin d'experts et d'expertise se fera grandissant. On ne peut pas, je dirais que pour l'acquéreur, on ne peut pas aujourd'hui, considérer que celui-ci ne s'est pas désolvabilisé. On ne passe pas sans dommage d'un OAT qui était à moins 0,60 à un OAT qui est aujourd'hui, donc il y a un an et demi à peu près, un OAT qui aujourd'hui s'inscrit à 2,80, je crois. Par définition, les banquiers ont remonté leur taux de financement, ont surtout remonté leurs critères d'exigence. Et c'est là qu'au croisement de ces exigences que s'inscrit l'expertise immobilière.
Un petit point, tiens, un petit peu technique, vous écriviez dans une tribune récemment, les sociétés de crowdfunding appliquent des coefficients prudents de loan to value à la valeur mentionnée dans le rapport. Expliquez-nous pour les non-initiés.
Alors, pour les non-initiés, enfin, je ne vais pas rentrer là aussi dans de la technique bancaire, mais en tout état de cause, la valeur que nous allons retenir, c'est une valeur vénale, par définition. Une valeur vénale que nous inscrivons à un instant T, en liaison avec les points cardinaux de la valeur vénale, que sont les attentes du vendeur et les possibilités de l'acquéreur. Les possibilités de l'acquéreur, on vient d'en parler. Ouais. Aujourd'hui, elles sont plus contraintes qu'elles ne l'étaient auparavant. Les attentes du vendeur, elles sont souvent, parfois, un petit peu surestimé. Dans l'absolu, je pense que la demande d'une société de crowdfunding, elle s'inscrit outre la valeur vénale sur de la valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est, eu égard à la situation de l'opération, souvent des opérations où les permis de construire ou les permis d'aménager ont été délivrés, c'est quelle est la valeur de ce bien dans l'optique d'une vente précipitée à 6 ou 12 mois. La valeur vénale s'inscrivant dans un horizon un petit peu plus long.
D'accord. Bon, c'est très clair, effectivement. On a compris, en tout cas, que c'est voilà, il fallait être plus prudent. Les logiciels ont été un petit peu revus ces derniers mois, et ça risque de durer, comme nous disait Bayer, puisqu'on est dans une zone un petit peu plus contrainte. On en sait, en tout cas, un petit peu plus sur ce crowdfunding immobilier. On l'a vu, une classe d'actifs à part qui intéresse de plus en plus. Attention, nous disent nos experts ici sur ce plateau. Voilà, la conjoncture commence à être un petit peu plus compliquée. Il va falloir être très sélectif. Et puis, bien sûr, on a bien compris le rôle de l'expert et de l'expertise dans ce milieu. Un grand merci à nos deux invités. Patrick Borghetti, je rappelle que vous êtes directeur du développement de la clientèle institutionnelle chez Galtier Valuation. Merci Patrick.
Merci Fabrice.
Et merci à Baya de Riche, la responsable des études immobilières chez Galtier Valuation. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission spéciale Galtier Valuation. À très bientôt.
Merci.
Émission spéciale Galtier Valuation, crowdfunding immobilier, les raisons du succès sur Radio Immo.